L'émission Que cherche-t-il innove aujourd'hui. Notre émission accueille en effet non pas un, mais deux jeunes chercheurs, Arnaud Collignon et Thomas Quirante. Thomas Quirante pour la conception robuste et l'aide à la décision pour système énergétique. Arnaud Collignon pour l'aide à la décision en conception de structures aéronautiques. Pour les interroger, Jean-Sébastien Schmitt et Marie Leroy.
Première question, pourquoi cette double présence? Qu'est-ce qui justifie que vous soyez tous les deux dans notre émission? Thomas?
Bon, alors je pense que tout d'abord, on fait partie du même labo. On a le même directeur de thèse, Patrick Sébastien. Et donc, tout naturellement, on travaille sur des thématiques qui sont très très voisines. Donc pour ma part, la conception robuste. Et Arnaud, sur de l'optimisation en aéronautique. Donc on peut dire qu'on a des approches qui sont différentes mais complémentaires.
Voilà, tout à fait différentes et complémentaires. Et puis donc ça permet de mettre un petit peu en avant justement ces légères différences. Donc Thomas termine sa première année tandis que moi je termine ma seconde année. Et puis moi j'ai un volet qui est un petit peu différent par rapport à lui, qui est de gérer des données. Tandis que tous les deux, la partie commune va plutôt être de l'ordre de l'optimisation. Et puis donc le champ d'application est différent puisque lui travaille dans les systèmes énergétiques, comme l'indiquaient les sujets de thèse. Tandis que moi, c'est plutôt appliqué au domaine aéronautique.
Il y a déjà deux choses que je voudrais que vous précisiez parce que je n'ai pas bien compris. D'abord, un mot robuste. Qu'est-ce que ça veut dire robuste? Et deuxièmement, on verra sur le terme optimisation qui paraît être un peu du langage spécialiste. Moi, j'aimerais bien que vous m'éclairiez là-dessus.
Alors, je vais d'abord expliquer la définition de robuste, donc qui n'est pas celle que l'on entend dans le langage courant, que l'on associe souvent à, on dit qu'un produit est robuste s'il est solide, s'il tient bien, s'il est résistant. Bon, c'est pas ça. Moi, robuste, je l'entends en conception, en tant que concevoir un produit, en étant le moins possible influencé par des incertitudes sur des paramètres. Donc par exemple, quand on conçoit, on n'est jamais sûr tout à fait des certaines longueurs, de certaines positions. Et donc ce qui amène à un certain moment à faire des choix qui peuvent se révéler peut-être pas les meilleurs. Donc voilà, moi je conçois, je fais des méthodes pour concevoir en travaillant avec ces incertitudes. On n'a pas le choix, on est dans des phases de conception. Donc à un moment donné, il faut prendre des décisions et c'est comment prendre les meilleures décisions possibles avec ses incertitudes.
Arnaud ?
Alors, pour ce qui est de la conception robuste, je pense que Thomas a fait le tour, puisque, enfin, en tout cas, bien détaillé de quoi s'il s'agissait. Moi, pour ma part, je vais répondre à la deuxième partie, qu'est-ce que l'optimisation ? Donc, on est bien dans le domaine de la conception, comme vient d'en parler Thomas. Hein. Donc, concevoir un produit, c'est-à-dire aller de l'idée jusqu'à sa fabrication. Donc, c'est un processus qui se divise en un certain nombre d'étapes. Nous, on est à deux étapes différentes. Thomas est un petit peu plus en amont que moi par rapport à ce processus-là. Moi, je suis plus proche de la fabrication elle-même. L'optimisation, c'est un outil qui est à la disposition du concepteur et qui lui permet de concevoir de manière la plus optimale possible. On tournerait un peu en rond. De manière à répondre au problème le mieux possible. C'est-à-dire qu'on a un problème de conception qui peut prendre plusieurs formes, notamment des formes de contraintes, donc un certain nombre de contraintes en termes de dimension, en termes d'utilisation de l'énergie, en termes de volume, de masse. Et donc on doit faire cohabiter un certain nombre de contraintes qui en général se repoussent les unes les autres. Puisque si on veut quelque chose qui va être le plus léger possible, il y a des chances qu'il soit de plus en plus cher. Par exemple, en termes de prix. Donc l'optimisation, ça prend tout ça en compte, ça permet d'obtenir un produit qui va essayer de répondre le mieux possible à ces différentes contraintes.
Alors, à un moment donné, enfin, assez souvent dans vos interventions, vous avez parlé de vos différences de niveau. Alors, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a fait vous rencontrer alors que l'un est au début de sa thèse et l'autre déjà un peu plus avancé dans sa thèse? Comment pouvez-vous faire rencontrer vos travaux?
Moi, à la base, j'ai un parcours, j'ai fait un bac scientifique, donc. J'ai fait ensuite une année de prépa, mais ça ne correspondait pas vraiment à mon tempérament, à ma façon de travailler. Donc j'ai ensuite basculé vers la fac où j'ai fait une licence en conception mécanique, puis un master en conception mécanique. Et c'est à la sortie du master qu'on m'a proposé donc, cette thèse avec donc, notre directeur de thèse, Patrick Sébastien. Et c'est donc un an après avoir commencé à travailler donc, au laboratoire Trèfle, à l'ENSAM donc, de Bordeaux, que j'ai rencontré Thomas à ce moment-là, puisque lui entrait en thèse à ce moment-là.
Donc j'ai eu mon bac S au lycée de Tyros dans les Landes. J'ai fait 2 ans de prépa physique-chimie à Bayonne. Et ensuite je suis parti à l'ESTIA, donc l'école d'ingénieurs du Pays Basque, qui est située à Bidart, à la sortie de l'autoroute de Biarritz. Pendant 3 ans, et j'ai acquis mon diplôme en conception généralisée des produits industriels. C'est vraiment en dernière année d'école d'ingénieurs où on m'a proposé une thèse. Donc, qui avait attrait à la conception, la thématique me plaisait, et puis j'avais la curiosité scientifique qui me poussait pour faire ça. Et donc, voilà, je suis arrivé en thèse au laboratoire Trèfle avec Patrick Sébastien, et c'est là où j'ai pu rencontrer Arnaud. Et donc, on a commencé à discuter sur nos sujets qui étaient vraiment très voisins. Et donc, lui, il avait déjà passé 1 an. Et bon, moi j'avais. Donc il avait fait un gros travail déjà. Et bon, moi j'arrivais petit à petit, on a commencé à échanger des idées, on a commencé à partager des points de vue, mais tout en restant quand même dans nos axes de recherche respectifs. Mais c'est très intéressant parce que dans la littérature qui est très très vaste, qu'on peut trouver, il y a beaucoup de publications, beaucoup d'ouvrages, et c'est vrai que si on était tout seul de notre côté, on ne pourrait pas tout lire, on ne pourrait pas tout voir. Donc à chaque fois, très souvent, on se dit, tiens, j'ai lu ça, qui peut t'intéresser, ou cet auteur parle de ci, de ça, tu pourrais l'appliquer à ça. Et c'est vrai que c'est un sérieux atout que l'on a.
Parfaite complémentarité.
Voilà. Et à ça, moi, j'ajouterais aussi que le fait qu'on ait une année de thèse de différence et pourtant qu'on communique aussi bien au niveau de notre travail, c'est parce que moi, finalement, sur la première année, j'ai pas tellement fait d'optimisation et j'ai travaillé sur un autre volet de ma thèse. Ma thèse est en 2 parties. Et il y a donc une partie gestion de données et analyse de problèmes industriels. Et puis, il y a une seconde partie qui est de l'optimisation. Et finalement, moi, j'ai commencé ma partie optimisation à peu près quand Thomas est arrivé, ce qui explique qu'on ait pu travailler aussi bien en parallèle.
Est-ce que vous diriez que votre thèse est une thèse théorique ? Votre recherche est-elle théorique ou est-ce qu'elle est pratique ? L'un et l'autre, puisque vous êtes très voisins.
Moi, je dirais qu'elle est pratique.
Moi, je dirais qu'elle est pratique aussi. Pour ma part, je travaille donc avec un certain nombre d'industriels, bureaux d'études, bureaux de calcul et développeurs d'un logiciel, puisque l'objectif final de ma thèse, c'est d'améliorer un logiciel déjà existant. Et puis un partenariat aussi avec un des sous-traitants d'Airbus, donc le Aircel, qui est situé notamment au Havre.
Donc en fait, vous ne travaillez que sur ordinateur ?
Oui, on ne travaille que sur ordinateur, c'est vrai. Mais un des gros avantages de nos sujets de thèse, c'est qu'on n'en fait pas seulement des mathématiques et de la physique, et c'est dans le titre de nos thèses, c'est qu'on fait de l'aide, surtout, c'est qu'on fait de l'aide à la décision.
Le financement ? C'est quoi pour l'un et pour l'autre ? C'est le même ?
Alors, pas ma connaissance, non. Enfin,
on va vérifier. Non, pas du tout.
Pour ma part, c'est un financement de la région Aquitaine. Donc, c'est un projet industriel mêlant donc les partenaires dont je viens de parler, notre laboratoire ainsi qu'un autre laboratoire qui est situé à Toulouse, l'ISAE. Et donc, c'est un projet industriel avec différents financements. Alors, je ne maîtrise pas forcément toutes les arcanes des financements, mais moi, pour ma part, la thèse est financée par la région Aquitaine.
Et moi, j'ai une bourse du ministère.
Le vent de ma mémoire me rappelle quelque soir que je suis pâle ici. Et même si je suis de partout où je joue, moi, je suis pâle ici. Mon pays provincial, personne ne te parle. C'est pour cela que ce soir je te chante 40 landes. On on a chanté la Bretagne, Euskadi, la Champagne, mais on ne t'a rien dit. On a chanté l'île de France, l'Alsace et la Provence, mais on ne t'a rien dit. Oh mon pays, t'es si plat que personne ne te voit. Pourtant quand viennent les beaux jours, on te fréquente 40 landes. Quand tu n'étais qu'un marais, on t'a planté.
Que cherche-t-il ? Interroge aujourd'hui Arnaud Collignan et Thomas Quirante. Et nous avons vu avec eux ce qui était commun et ce qui justifiait leur présence commune. Nous allons continuer maintenant en essayant d'aller un peu plus loin dans les sujets voisins de leur thèse respective.
Oui, alors je voudrais savoir quelle est la part de la science humaine, des sciences humaines dans votre travail commun.
Oui, donc comme j'avais commencé à le dire tout à l'heure, ce qu'on fait surtout, c'est de l'aide à la décision. Donc l'aide à la décision, c'est, comme son nom l'indique, c'est des outils pour aider le concepteur, et plus généralement l'humain, dans sa recherche, dans ses travaux, dans ses activités de tous les jours. Donc, et ça l'aide notamment à prendre des choix qui sont justes, et dans ce qui me concerne, des choix qui sont robustes, c'est-à-dire qui vont être les plus pérennes dans le temps.
Donc là, on parle de choix de conception, c'est-à-dire en termes de conception, pour un produit donné, une configuration de produit, c'est-à-dire un jeu de dimensions, un jeu de caractéristiques matériaux par exemple, ou une architecture du produit qui vont être optimisées, robustes, etc. Donc pour pouvoir faire, en tout cas aider le concepteur à ses choix, parce que ce qui est important de noter, c'est que c'est une aide. Hein. L'idée, c'est pas de remplacer le concepteur, mais bien de lui proposer une aide. Donc pour ça, en réalité, on passe par un modèle, comme beaucoup de recherches. On va donc modéliser le produit, et ça de deux manières différentes. Je pense que c'est peut-être ce qui est important à retenir dans notre travail, ou au moins la première chose importante. La première modélisation, ça va être une modélisation plutôt objective, c'est-à-dire une modélisation physique avec un comportement physique. Qu'est-ce qui se passe exactement à partir d'un certain nombre de données d'entrée, qui vont être les caractéristiques du produit, et un certain nombre de données de sortie, qui vont être la masse, ou un impact écologique, ou une consommation énergétique, etc. Ça, c'est ce qu'on va appeler une modélisation objective, entre guillemets, mais plutôt à tendance objective, donc physique, un modèle de coût, un modèle éventuellement écologique. Et puis il y a la deuxième partie qui va être un modèle subjectif. Je vais peut-être laisser Thomas détailler un peu plus.
Un modèle subjectif, oui, que l'on associe souvent à de l'interprétation. Parce que le cheminement de la pensée de l'humain, en général, quand il fait un jugement, c'est que d'abord il observe, puis après il interprète. Donc cette phase d'interprétation, en fait, on la modélise par ce qu'on appelle des fonctions de désirabilité, qui modélise, entre guillemets, la désirabilité d'une certaine caractéristique, comme la masse, par rapport à sa valeur. Donc ça a trait à la phase d'interprétation, et c'est à partir de cette phase d'observation et cette phase d'interprétation que l'on modélise sur deux niveaux notre produit.
Donc toutes ces fonctions sont entièrement paramétrables.
Entièrement paramétrables, exactement, pour permettre au concepteur d'ajuster ses fonctions à ses besoins, à son jugement, à des règles expertes qui peuvent être issues de tous les domaines qui sont inclus dans le développement du produit.
Donc agrégation des informations en fonction des objectifs de conception.
Exactement.
Pour prendre un exemple un peu qui va être un peu parlant, si on a en entrée par exemple des dimensions et un matériau, on va pouvoir observer donc de manière objective une masse. Et puis ensuite, cette masse, on va chercher à interpréter, c'est-à-dire à dire si elle est entre telle et telle valeur, c'est acceptable, si elle est entre telle et telle valeur, c'est moins bon, si elle est au-delà de telle valeur, ça va pas du tout. Et de cette manière-là, on peut appliquer donc ces fonctions de désirabilité sur une masse, mais aussi sur beaucoup d'autres variables qui permettent d'observer le produit. Et ensuite, on passe à une méthode donc d'agrégation dont vous venez de parler, qui permet ensuite d'obtenir une seule et unique valeur pour un produit donné, qu'on va appeler préférence sur la performance, c'est-à-dire une performance du produit qui va intégrer la modélisation objective et ensuite la manière qu'a le concepteur de voir si le produit satisfait ou non à ses désirs, pour reprendre le terme de désirabilité.
Donc il y a une interprétation relative de chaque paramètre.
Voilà, tout à fait.
Alors on a vu que vous étiez plutôt en collaboration entre vous. Cette collaboration doit toucher aussi d'autres chercheurs de votre même laboratoire. Alors, il y a une question que je voudrais vous poser. Donc, vous êtes une équipe, vous travaillez en équipe. Est-ce qu'il y a d'autres laboratoires et est-ce qu'il y a, au contraire de l'équipe, des concurrences, par exemple? Est-ce que tout n'est que coopération et volupté? Ou alors, y a-t-il de la concurrence avec d'autres labos?
Alors, en réalité, c'est déjà un petit peu compliqué, rien que dans notre labo, pour commencer. Juste pour revenir rapidement dessus, donc on est au laboratoire Trèfle, qui signifie, qui n'a rien à voir avec la biologie, hein, ou la plante, c'est donc transfert, écoulement, fluide, énergie. Donc c'est un laboratoire qui est divisé en plusieurs équipes, 6 si je ne me trompe pas, et donc dont une équipe conception de systèmes énergétiques dont nous faisons partie. Donc c'est une équipe qui est un petit peu spéciale par rapport aux 5 autres, puisque nous on fait vraiment de la conception, et c'est déjà une particularité qu'on a. Et puis, dans cette équipe-là, on est, on va dire, quelques-uns à faire, en plus, vraiment de l'optimisation. Et là effectivement, on n'est plus que tous les deux.
C'est quelque chose d'assez nouveau.
Thèse. Voilà. Donc déjà, rien que dans le laboratoire, on est assez différent des autres équipes du laboratoire.
Et avez-vous des communications avec l'étranger?
Alors, pas vraiment, ou en tout cas, pas de manière directe. Moi, en ce qui me concerne, dans le cadre de ma thèse, il y a des communications, notamment avec le laboratoire ISAE, dont je parlais à Toulouse, qui fait partie du même projet que nous. Mais ça reste des collaborations ponctuelles. Après, à l'heure actuelle, moi, j'ai pas de collaboration directe avec l'étranger, si ce n'est, bien entendu, pour valoriser les travaux de recherche, donc tout ce qui va être conférences internationales et publications dans des revues internationales.
C'est pareil pour vous?
C'est pareil pour moi.
Est-ce qu'on peut envisager des applications industrielles spécifiques? Vous avez parlé un peu d'aéronautique pour l'un, d'informatique pour l'autre. Est-ce qu'il y a un domaine très particulier où votre recherche peut avoir un sens économique et financier, voilà, dans l'industrie en particulier?
Mais c'est assez difficile de répondre à cette question. Alors, bien sûr, j'aurais envie de dire oui.
Oui, mais ça...
J'ai très envie de dire oui, mais je pense que...
Sans rien dévoiler, bien sûr.
Immédiatement, c'est pas encore réaliste.
D'accord.
Nous sommes un petit peu en avance par rapport aux problématiques rencontrées dans l'aéronautique aujourd'hui.
Alors après, pour ma part, je nuancerai un petit peu ce que dit Thomas, puisque moi, il s'agit de modifier un logiciel qui est déjà existant. Et donc... A priori, si tout va bien, en croisant les doigts, d'ici la fin de la thèse, il devrait y avoir des améliorations notables pour ce logiciel et donc appliqué chez des industriels de l'aéronautique de manière relativement concrète. Alors après, est-ce que la totalité de la thèse et des travaux de recherche, seront pris en compte? Probablement pas, mais je pense qu'au moins une partie pourra être transférée vers l'industrie.
Est-ce que vous avez des exemples pour expliquer l'automatisation d'un processus?
Alors là, il y a peut-être... moi, je pense au processus d'optimisation, notamment à la recherche d'une solution qui va être le mieux possible. Je pense que c'est pas inintéressant de souligner qu'on utilise des méthodes qui copient la nature. C'est-à-dire, ce sont des algorithmes informatiques qui vont s'inspirer de ce qui existe dans la nature pour résoudre un problème, tel que la sélection naturelle, par exemple, ou alors simuler le vol de particules comme des oiseaux ou des insectes. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me. Mama just killed a man.
gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead.
Messieurs, comment voyez-vous votre avenir ?
Là, moi, vous me parlez, c'est quelque chose d'un petit peu loin pour moi, vu que ce n'est même pas la fin de ma première année de thèse. Donc, pour l'instant, j'ai encore toutes les cartes en main. Donc, je fais de l'enseignement à l'IUT en ce moment. Donc, soit j'aurai peut-être la possibilité de continuer dans la voie de la recherche et entamer une carrière universitaire. Soit m'orienter vers le monde de l'industrie, et ce qui est tout à fait plausible. Et en particulier, je chercherai plutôt dans des boîtes dans des entreprises d'aéronautique.
Moi, j'ai envie de répondre globalement la même chose que Thomas. Moi, c'est donc un petit peu plus près, puisqu'il me reste un peu plus d'un an. J'avoue que je ne sais pas trop. Les deux volets sont possibles, autant un volet recherche qu'un volet industrie. Moi, j'ai la chance de travailler avec des industriels déjà dans le cadre de ma thèse, donc qui me connaissent, qui m'identifient, et bon, je ne sais pas s'il y aura des suites, une proposition d'emploi. Ça arrive régulièrement, mais ce n'est pas systématique, donc je verrai en temps voulu. Et puis, bon, il faut savoir que de toute façon, des profils tels que les nôtres d'ingénieurs, ou moi, bon, je n'ai pas tout à fait le diplôme d'ingénieur, mais j'ai un master en conception. Des profils comme nous, qui en plus ont une thèse, sont de plus en plus recherchés dans l'industrie.
Est-ce que vos travaux vous laissent des loisirs ?
Tout à fait.
Alors, lesquels ?
Tout à fait. C'est pas parce qu'on est doctorant que l'on se coupe du monde. Je pense qu'on fait du sport, on sort. Moi, pour ma part, je fais du surf, du VTT, de la natation.
Bah, pour ma part, de la natation aussi, du tir à l'arc, et puis on profite globalement de nos week-ends, à peu près comme tout le monde. Hein.
Des références culturelles ?
Lecture, si je vous parle d'auteurs que je lis en ce moment, ça va pas trop vous parler, vu que ça a trait à l'ingénierie et au design en général. Mais oui, de la musique, du rock, beaucoup de rock.
Bah, pour ma part, j'ai mes deux frères qui font partie d'un groupe de funk dans la région bordelaise, donc je les suis un petit peu. Puis bon, un peu de lecture aussi. Moi, j'ai un faible notamment pour la fantasy et la science-fiction.
Donc, il nous reste à vous remercier de votre présence commune.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et merci à Jean-Sébastien. Merci.